Il est midi ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Bonjour à tous.
Karine Bellichat.
À la une, l'avocat de Boualem Sansal en appelle à l'humanité du président algérien. L'écrivain franco-algérien était condamné à 5 ans de prison ce matin. Abdelmadjid Tebboune usera-t-il de son droit de grâce en pleine crise diplomatique entre Paris et Alger ? Alors que la décision de Donald Trump d'imposer 25% de droits de douane supplémentaires sur les automobiles crée d'énormes remous, nouveau pavé dans la mare envoyé à ses partenaires économiques. En France, l'INSEE publie les chiffres du déficit public pour l'an dernier. Les comptes sont dans le rouge, avec un nouveau record. Les explications de Nathalie Vitran dans ce journal. Enfin, reportage à Metz, à suivre dans l'Est de la France, où des étudiants ukrainiens sont formés à l'université pour penser la reconstruction de leur pays. En Algérie, il était accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, à la sûreté de l'État et à la stabilité des institutions. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, a été condamné ce matin à 5 ans de prison ferme. Pierre Firsion, bonjour.
Bonjour Karine.
C'est une peine moins lourde que celle requise par le parquet.
Oui, le procureur avait requis 10 ans de prison et 1 million de dinars d'amende. L'écrivain a donc été condamné à la moitié de la peine requise, 5 ans de prison ferme et 500 000 dinars d'amende, soit environ 3 500 euros. Le juge du tribunal de Dar el-Beida a lu la sentence ce matin en présence de l'écrivain. Boualem Sansal avait été jugé jeudi dernier, un procès express au cours duquel il s'était défendu seul, accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire suite à des déclarations faites en octobre à un média français d'extrême droite. Le romancier avait nié toute intention de porter atteinte à son pays. Son avocat français, maître François Zimré, parle ce matin d'une condamnation qui, je cite, « trahit le sens même du mot justice ». Maître Zimré appelle le président algérien à faire preuve d'humanité en graciant Boualem Sansal. Un tel geste est-il possible? C'est encore trop tôt pour le dire, mais en parallèle, les réseaux diplomatiques s'activent pour trouver une issue à cette affaire. Selon nos informations, Anne-Claire Legendre, la conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président Macron, s'est rendue mardi à Alger. Plusieurs médias font état d'une possible visite de Jean-Noël Barrot début avril en Algérie. Or, difficile pour le ministre français des Affaires étrangères de se rendre sur place si Boualem Sansal est toujours en prison. Dans ce cas, il ne peut pas y aller, confie au micro une bonne source. L'idée d'une grâce semble donc plus que jamais faire son chemin.
Pierre Firsion du service Afrique d'RFI. En Israël, à présent, pas question pour Benjamin Netanyahou de reculer, malgré les rassemblements quasi quotidiens des manifestants qui dénoncent la dérive autoritaire de l'exécutif israélien. Le Parlement a adopté ce matin une loi affaiblissant le pouvoir des juges. Recours immédiat de l'opposition devant la Cour suprême. Le bras de fer continue. Toujours en Israël, son discours fera date. C'est à l'invitation du gouvernement israélien que Jordan Bardella va prendre la parole cet après-midi à une conférence contre l'antisémitisme à Jérusalem. Une première pour le Rassemblement national. Point d'orgue de la stratégie de dédiabolisation du parti français. Une présence aux côtés d'autres leaders d'extrême droite qui ne passent pas. De nombreuses personnalités ont annulé leur participation à l'événement. Les partenaires commerciaux des États-Unis cherchent la parade après le nouveau coup de force de Donald Trump. Le président américain impose 25% de droits de douane supplémentaires sur les automobiles. Une très mauvaise nouvelle pour le ministre français de l'économie. Éric Lombard appelle à une riposte européenne que Berlin souhaite ferme. C'est extrêmement regrettable pour le Japon qui affirme que toutes les options sont désormais sur la table. Les constructeurs américains s'inquiètent aussi d'un effet boomerang. Leurs usines au Mexique ou au Canada seront impactées par la hausse imposée. C'est dans ce contexte économique mondial tendu qu'en France, les chiffres du déficit public viennent d'être rendus publics. En 2024, il s'établit à 5,8% du PIB et la dette française dépasse désormais 3 300 milliards d'euros. Un record. Pour en parler, Nathalie Vitran du service économie nous a rejoint. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Karine.
Le dérapage des finances publiques se confirme.
Oui, et le contraste est cruel avec notre voisin espagnol, par exemple, alors que Madrid vient d'annoncer il y a tout juste une heure qu'elle avait ramené son déficit sous la barre des 3% du PIB en 2024, avec un an d'avance carrément. En Europe, seule la Grèce et l'Italie sont aujourd'hui plus endettées que la France. Cela étant dit, 5,8% de la production intérieure intérieur brut, c'est un peu moins pire que ce que prévoyait le gouvernement français. Ce matin, sur France Inter, le ministre de l'économie a mis cela au crédit de Michel Barnier, qui durant son éphémère passage à Matignon a resserré avec succès les cordons de la bourse. Pour autant, Éric Lombard le reconnaît, au moment où le contexte géopolitique pousse l'Europe au réarmement, ça n'est pas une bonne nouvelle.
La souveraineté nationale, elle va aussi avec une souveraineté financière. Or, tant que nous n'avons pas traité le problème du déficit de la dette, nous sommes en risque. Nous avons 3300 milliards d'euros de dette. Nous allons verser à nos créanciers presque 70 milliards d'euros d'intérêts, c'est-à-dire plus que le budget de la défense. Donc nous devons réduire ce déficit.
Réduire le déficit, d'accord, mais comment s'y prend-on, Nathanaël ?
Alors, il y a deux solutions, hein. Ou vous augmentez les recettes, ou vous réduisez les dépenses, et de préférence les deux à la fois. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé, vous en parliez, qu'en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, il serait risqué de parier sur une croissance forte de l'économie française. Le gouvernement a lui-même, écarté l'idée d'augmenter les impôts. Reste donc les coupes dans les dépenses publiques, sans toucher, voire en augmentant le budget de la défense. Vu les contraintes que c'est imposé l'exécutif à lui-même, il ne reste qu'une seule possibilité, tailler dans les dépenses sociales. Et là, on passe d'une équation économique à une équation politique, pas forcément plus simple à résoudre.
Nathanaël Vitran du service éco d'RFI. À Paris, près de 30 pays sont réunis autour d'Emmanuel Macron, un sommet des volontaires alliés de l'Ukraine, avec beaucoup de réunions préparatoires. L'objectif est de finaliser les garanties de sécurité à apporter à Kiev en cas d'accord de paix avec Moscou. Préparer l'avenir de l'Ukraine, il en est question à l'université de Metz, dans l'est de la France. Depuis 2022, la fac dispense des cours de management et de commerce international à des étudiants ukrainiens, une formation unique en France pour les aider à reconstruire le pays après-guerre. Reportage Viloen Munoz-Boileau.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on a continué le projet sur le cours de.
C'est l'un des derniers cours du semestre pour les étudiants du diplôme franco-ukrainien Management et Commerce International de l'Institut d'administration des entreprises de Metz. Une formation créée en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine, comme l'explique Julien Husson, directeur de l'Institut.
Alors, l'idée est venue d'une de nos anciennes étudiantes, Violetta Moscalou, qui a vu l'opportunité de créer un diplôme pour faire venir des étudiants d'Ukraine avec un statut de réfugié.
À l'époque doctorante en sciences de gestion à Metz, l'Ukrainienne Violetta Moscalou est devenue la responsable pédagogique de la formation.
Nous avons pu lancer un espace record en 2 mois, un programme de niveau Bac plus 3 qui permet de former tous les ans une trentaine de diplômés. Et donc l'objectif, c'est de former des managers parce que la guerre va s'arrêter à un moment donné et les chantiers de reconstruction vont être très importants et il y aura besoin des managers capables de travailler dans un milieu franco-ukrainien.
Entre deux cours, des étudiantes ukrainiennes se retrouvent à la cafétéria. Violetta Chenkaryuk, 23 ans, fait partie de l'actuelle promotion. Originaire de Tchernitsy, à l'ouest de l'Ukraine, elle est arrivée à Metz en juillet dernier, un master en langue étrangère en poche, mais sans parler un mot de français.
Nous avons beaucoup de cours en gestion de projet, en marketing, en finance, beaucoup d'heures de français. Maintenant, je vais essayer de trouver un stage et après, dans quelques années, peut-être je vais retourner en Ukraine, si c'est possible.
Une centaine d'étudiants a déjà achevé la formation. Parmi eux, les deux tiers ont poursuivi leurs études en master en France et un tiers a trouvé un emploi ou créé son entreprise, comme Tetiana Poorena, 26 ans.
Et c'est Boutique Solidaire Kvitka, dont je suis très fière. Dans notre boutique, les gens peuvent trouver des chemises brodées ukrainiennes traditionnelles, sucreries, du miel, des souvenirs. Mon but est de faire découvrir notre culture parce que l'Ukraine est incroyablement riche culturellement.
Comme elle, 80% des Ukrainiens bénéficiaires de la formation sont des femmes, car il est presque impossible pour les hommes de plus de 18 ans de quitter l'Ukraine en raison de la mobilisation mise en place après l'invasion russe. Face à son succès, la formation initialement prévue pour une durée de 3 ans va être prolongée pour au moins 3 années supplémentaires. La prochaine rentrée est prévue en octobre 2025. Viloen Munoz-Boileau, Metz, RFI.
L'actualité en France, c'est aussi Nicolas Sarkozy et ses 11 co-prévenus qui attendent cet après-midi les peines qui seront requises par le parquet. Selon l'accusation, l'ancien président français est le véritable commanditaire d'un pacte de corruption. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.